plus particulièrement aujourd'hui à travers le Conseil national de la XR, qui est d'avoir justement un impact au niveau international. Parce qu'on sait que les entreprises françaises sont parmi les meilleures dans cet écosystème et que pour pouvoir exister quand on est français, et c'est, il faut pouvoir se réunir, il faut pouvoir s'unir pour pouvoir parler, être à armes égales avec avec les grandes entreprises internationales et les GAFAM. Donc c'est aussi une grosse partie de mon activité, en tout cas des valeurs que je continue de porter.
Je n'avais pas prévu en parler tout de suite, mais juste, tu parlais des salles d'arcade. Je ne sais pas si vous avez vu ça, si vous êtes de Paris ou pas, il y en a sans doute dans d'autres villes, mais voilà, des salles où on pouvait, un peu comme ça, mais peut-être plus petites, où on pouvait aller à plusieurs ou en individuel faire des jeux en réalité virtuelle. Ça marche pas très bien, semble-t-il. Du moins, on a vu des différents lieux se créer. Il y en a peut-être de moins en moins. Je me trompe peut-être, mais reprends-moi. Et du coup, qu'est-ce qui fait que ça marche moins bien et peut-être que Antoine peut rebondir aussi dessus, mais qu'on a des expériences comme celle-ci qui marchent mieux. C'est un type d'expérience, une techno qui n'était pas mûre au même moment, un réseau d'acteurs, encore une fois, peut-être tout ça en même temps.
Je pense effectivement que c'est un mix de tout ça. Déjà, quand moi je m'étais lancé, on était en 2016, donc la technologie était pas tout à fait prête, les contenus étaient pas assez qualitatifs, la technologie était coûteuse. Cette vision aussi de se dire que comme ce qu'on avait été capable de faire dans les années 80 pour démocratiser le jeu vidéo via les salles d'arcade où on jouait à la PlayStation qui n'était pas la PlayStation à l'époque, c'était une bonne vision. C'était très certainement trop tôt, avec un modèle économique qui n'était pas prêt, une population qui n'était pas prête. On a beaucoup parlé tout à l'heure du métaverse et je suppose que vous avez aussi entendu beaucoup de choses qui sont positives sur ce que ça va pouvoir apporter. Et puis l'impact, enfin la vision de la population vis-à-vis de cette technologie-là, je pense qu'on est sur des technologies où il faut éduquer la population à son utilisation, utiliser ces technologies pour des choses qui ont du sens. Et à ce moment-là, en l'occurrence, le métaverse n'a pas eu on va dire un buzz négatif aussi sur son utilisation. Le modèle économique n'était pas prêt. On voit qu'aujourd'hui, effectivement, ces petites salles, il y en a certaines qui continuent d'exister et qui fonctionnent très bien. Mais ce qui fonctionne plutôt bien aujourd'hui, comme dans le domaine du cinéma d'ailleurs, c'est les super productions. On a envie d'aller au cinéma, on va voir au cinéma des films qui mérite d'être vu au cinéma, faut se déplacer, ça coûte de l'argent, donc on va avoir des super productions. Ça me paraît assez logique qu'on se soit déplacé vers ce type de modalité ou d'autres types de modalités dont Marie a parlé tout à l'heure, qui sont plutôt du coup des modèles qui sont intermédiaires. On en reparlera peut-être un peu plus tard, mais qui permettent d'utiliser les technologies immersives dans des lieux déjà existants, sur lesquels ton billet d'entrée, tu l'as déjà payé pour aller voir un musée, et où on va augmenter l'expérience. On va pas créer l'expérience uniquement autour du virtuel, mais on va augmenter cette expérience. Donc je pense que c'est un mix d'un petit peu de toutes ces raisons-là. Mais oui, c'est un écosystème qui a beaucoup bougé.
Et on reviendra effectivement sur les différents types d'expériences, de lieux, de ce que ça peut impliquer en termes de coûts aussi, de production, etc. Et comment ça se croise ou pas. On va peut-être passer par Anaïs. Anaïs Aix, cofondatrice de Friend Touch Factory, avec une activité qui a évolué. Donc je te laisserai aussi nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui et puis peut-être ce que ça dit aussi de l'évolution du marché de tout cela. Et puis, vous êtes partenaire du projet européen Ithaca.
Oui, exact. C'est ça. Merci Jean-François. Et merci également pour ceux qui s'impliquent dans le Conseil national de la XR. Ça peut paraître évident peut-être pour le public qu'une industrie ou une filière soit organisée en association. Mais mine de rien, ce Conseil national de la XR, il existe depuis très peu de temps, depuis 2 ans. Donc c'est à noter quand même dans le développement des technologies immersives. Et je vous invite à jeter un coup d'œil à son site. Et même pour les futurs ou des aspirants professionnels de ce secteur, il semblerait qu'il y ait une page RH qui vient tout juste d'être créée. Mais je vous laisse regarder directement. Donc oui, moi j'ai cofondé avec 3 amis French Touch Factory. Donc on est une start-up, Alors, on vient de recruter du monde, donc on est 9 maintenant. On était au début, Au début, plutôt des créateurs de contenu immersif. La boîte a été créée fin 2018, avec au début des expériences, un projet qui avait été présenté à Venise, la première année où il y avait eu une section réalité virtuelle à la Biennale de Venise. Et à peu près à la même période, on avait créé le premier jeu de piste en réalité virtuelle de Paris. Donc un format assez différent, on pourra en reparler un peu plus tard si vous voulez. Mais depuis 2 ans, on est focalisé sur Ithaca, qui est en fait la création d'un logiciel. Donc de créateur de contenu, on est plutôt passé à prestataire de solutions technologiques pour les créateurs et producteurs de contenu. En fait, on crée un logiciel qui permet de faire de la capture 3D vidéo, ou autrement appelé vidéo volumétrique, ce qui permet de créer des hologrammes. Pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on fait avec cet hologramme, en référence avec l'horizon de Khéops que la plupart d'entre vous viennent de voir, on avait tout au long de l'expérience Mona, l'égyptologue et à la fois guide qui nous a accompagnés sur toute l'expérience. Donc c'était un avatar sous des traits humains. Avec nos hologrammes, on pourrait imaginer que Mona soit une vraie guide ou une vraie archéologue, et simplement qu'on l'ait enregistrée en 3D. Donc ça renforcerait le réalisme. Ça peut être un choix évidemment de direction artistique d'avoir plutôt un avatar qui ressemble à un humain ou pas d'ailleurs, ça c'est une question. Mais nous, on va viser justement la captation en 3D vidéo du réel pour l'intégrer dans les productions, dans tout ce qui est production virtuelle. Et le projet s'appelle Ithaca. Je dirais un petit peu comme Styx, on aime bien les acronymes quand il s'agit de dossiers européens ou français. Ithaca est également soutenu par le projet France 2030, comme Styx, si je ne me trompe pas, et également par la Commission européenne. Donc Ithaca, ça veut dire Immersion and Training with Holograms for Art, Craft and Audiovisual. Et c'est un projet qu'on mène en partenariat avec l'École des Mines Paris PSL, l'Institut de recherche allemand Fraunhofer et un studio de post-production espagnol qui s'appelle Sergio Ochoa Studios. Voilà à peu près.
Merci beaucoup. Une question rapide, totalement imprévue, mais en fait, pareil, je réfléchissais aussi à ce qui a été dit avant. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui utilise le terme de métavers ? Est-ce que vous faites du métavers ou pas du tout ? Question oui, non ou...
Oui.
Oui ? Il n'y a pas de piège, hein, c'est juste pour. Ça va leur permettre peut-être, si vous n'êtes pas dans la carto, d'être dans la carto ou pas ?
Non.
Non ?
Moi, je dirais non.
Ça dépend.
Mais non, parce que pas la tendance en ce moment. Ouais. Et quand on fait des technologies immersives dans les choses qui ont du sens, plutôt éducation, formation, on se prive du mot métaverse en ce moment.
Non plus, pour non un plus. Peu les mêmes raisons. C'est qu'il y a eu cette hype et en fait, très très difficile de trouver les bons noms pour les bonnes notions dans cet univers très très effervescent. Donc chaque fois qu'il y a un consensus très fort qui révolutionne quelque chose, qui est censé révolutionner quelque chose très vite, je me méfie un peu, et c'est un peu une des idées qu'on peut reporter à la production de contenu de façon générale, c'est que l'innovation, ça prend beaucoup de temps, ça arrive pas d'un seul coup, et tout ce qu'on voit émerger aujourd'hui en matière de modèles, de choses comme ça, c'est parce que des dynamiques ont été initiées il y a bien des années, et ça induit du coup et des modèles et des supports et des écosystèmes qui ont besoin d'être extrêmement résistants. Voilà.
Oui. Juste rajouter 2 mots, comme je suis la seule à avoir dit oui, aucun problème avec le métaverse. Mais je voulais juste compléter et puis peut-être faire le lien avec ce que disait Gabriel Tailleur juste avant, qui faisait pas mal de références à l'univers du jeu vidéo, et Cécile Medel en introduction qui disait qu'elle n'allait pas définir le métaverse. Ça dépend, ça dépend de la définition, j'ai envie de dire, mais est-ce que dans la salle, il y a des gamers ou des adeptes de jeux vidéo ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ah non, très studieux. Très studieux, mais il y a des petites mains quand même discrètes qui se lèvent, en tout cas ici. Mais si on prend en considération un univers...